Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, le cinéma.
Ce soir, Charlotte Garçon et Julien Gester se font face à notre affiche Love and Friendship de Whit Stillman, Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg en coffret DVD Ultra Collector chez Carlotta. Nous évoquerons aussi plus rapidement le cycle Le Mélodrame français, la Cinémathèque française, la sortie en version restaurée de Belladonna de Eiichi Yamamoto et la sortie en DVD et Blu-ray de Bad Boy Bubby de Rolf de Heer. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Beat Generation jusqu'au 3 octobre au Centre Pompidou à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec la chanteuse et comédienne Camélia Jordana qui est toute cette semaine l'invitée de La Dispute. Stillman n'est pas du genre à encombrer les écrans avec 5 longs métrages en 26 années d'activité. Metropolitan, Barcelona, Les derniers jours du disco avaient réjoui mes années 90. Il a fallu attendre 2011 pour le retrouver sur grand écran avec Damsels in Distress, Love and Friendship. Son nouveau film est une adaptation d'un court roman de Jane Austen, Lady Susan. Sachez donc de son premier film en costume, même bon, c'est Les derniers jours du disco, certes, était un peu en costume puisqu'il se situait une quinzaine d'années avant l'époque de leur réalisation. Le tout début de ce Love and Friendship est une bourrasque qui voit Lady Susan quitter la demeure de Langford avec perte et fracas, sans qu'on sache très bien pourquoi, et faire conduire sa diligence vers Churchill, demeure de sa belle famille, où elle arrive et s'impose sans plus de manière. Lady Susan, on va vite le comprendre, c'est une femme fraîchement veuve, comme l'on dit, sans le sou et précédée par sa réputation de séductrice, et donc une hôte bien encombrante.
Seems Lady Susan will finally visit.
Lady Susan Vernon. Congratulations on being about to receive the most accomplished flirt in all England.
That woman's a fiend.
I have no money and no husband.
Excuse me for arriving this way. What a delightful family pose.
A permanent connection between you and Lady Susan would destroy every comfort of our lives.
With pleasure.
Mr. De Courcy's is handsome, isn't he?
In a calf-like way, not like Mannering, of course. Sir James Martin. Vastly rich, rather simple.
Ideal.
Tiny green balls. What are they called?
Peas.
Susan, stop.
Mannering's in town. Make up anything.
You brilliant creature.
Their encouragement of other men was so notorious.
These are vile calumnies.
Deranged.
Madam!
If she were going to be jealous, she should not have married such a charming man.
It's not possible.
Lady Susan!
Be gone, sir. I will have you whipped.
Have you never met him?
No, I know him well. I would never speak to a stranger like that. Suitors of great wisdom can a young woman expect to find these days?
Don't know.
None.
Love and Friendship de Whit Stillman sort demain sur les écrans français. Charlotte Garçon, commencez.
Oui, on l'entend, vous disiez film en costume, en réalité effectivement le film est très centré autour du dialogue, c'est-à-dire que les costumes et l'époque sont là, mais tout est organisé autour de l'efficacité des mots de cette femme, alors on pourrait dire cynique ou manipulatrice, mais tout simplement qui a compris extrêmement intelligemment le jeu social et la position de la femme veuve de son âge dans le jeu social. Et alors, c'est vrai que Whit Stillman adapte un roman épistolaire, je trouve que ça, on sent que l'adaptation est extrêmement travaillée, enfin mature, et que il tire une forme qui n'est pas une forme épistolaire, mais la forme épistolaire est diffractée dans le film, ce qui fait que à la fois l'écrit et puis donc la force des mots donne vraiment quelque chose de très très dense à ce film. Donc j'ai trouvé une forme tout à fait enlevée et en même temps pas du tout légère au sens où ça rendrait le film superficiel.
Ben voilà une entrée en matière. Julien Gester.
Pour poursuivre, on sent vraiment que dans cette matière austénienne, Stillman navigue vraiment comme s'il était chez lui. Je lisais, je crois que c'était dans la critique du New Yorker quand le film est sorti il y a quelques mois aux États-Unis et où il a d'ailleurs recueilli le plus important succès de la carrière de Whit Stillman, au fond la matière de Jane Austen, c'était pour Whit Stillman ce que le Far West était pour John Ford, c'est-à-dire un monde qu'il n'avait pas connu, qui n'était pas a priori, il était coupé, enfin géographiquement et surtout historiquement, mais qui était au fond plus profondément chez lui, plus profondément le lieu de son imaginaire, le lieu de sa morale, le lieu de sa vision du monde. Et on c'est tout à fait sensible à la manière, précisément comme vient de le dire Charles Garçon, dont il navigue, il tournoie dans le texte, il le fait absolument le sien, il se l'approprie absolument, même s'il dit lui-même en entretien que voilà les mots les plus efficaces, les mots les plus forts de l'intrigue et du film viennent directement du texte de Jane Austen. Et c'était un écrivain qu'il était vraiment destiné à adapter un jour. Il y a eu un certain nombre de rendez-vous manqués, on lui avait proposé un certain nombre de projets d'adaptation, il a été plus ou moins impliqué à un moment donné sur Raison et Sentiment, et puis ça ne s'est pas fait. Je crois que ça a été à nouveau le cas sur Orgueil et Préjugés, qu'il a eu divers projets dont certains, semble-t-il, sont encore dans ses tiroirs et vivaces. Et pourquoi il a choisi ce texte-là, c'est assez intriguant, puisque c'est un texte peu connu, qui est je crois paru de manière posthume, qui est une œuvre de jeunesse, et qui ne présentait pas, a priori, pas la facilité d'autres textes en termes d'adaptation, puisque précisément ancré dans une forme épistolaire qu'il a tout à fait faite sienne, et dont il sème encore les indices dans le film de manière, je trouve, assez fine, et qui tissue une toile vraiment de l'intrigue comme des indices dont une partie seulement nous serait dévoilée, mais il transforme ça. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a tiré précisément, parce qu'au fond Stillman est partout chez lui, chez Jane Austen, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose du caractère très alerte de cette intrigue, et puis le terrain de jeu que ça offrait à deux actrices qui retrouvent, qui étaient le duo des derniers jours du disco, qui sont Kate Beckinsale, qui tient ici le rôle principal, et Chloé Sevigny, qui d'ailleurs est là presque en tant que Chloé Sevigny, puisque
sa copine américaine.
Oui, mais on lui dit, mais je crois que c'est un personnage anglais en plus dans le texte original qu'il a qu'il a américanisé. Et lorsqu'elle se retrouve pour la première fois, elle dit, il faut surtout pas que mon mari sache que nous nous voyons, sinon il va me renvoyer dans le Connecticut, qui se trouve être le lieu d'origine de l'actrice. Mais le film joue beaucoup de ces retrouvailles, je trouve, en retour. Tournant la relation qui était la leur dans les derniers jours du disco, même s'il est évidemment pas du tout nécessaire d'avoir vu ce film merveilleux pour apprécier celui-là, même si la manière dont il renverse aussi les personnages qui étaient les leurs et le caractère toxique qui pouvait être celui de leur relation devient ici quelque chose qui grandit, qui le personnage de Kate Beckinsale qui est véritablement, enfin cette Lady Susan qui est véritablement celle qui gouverne un jeu social dont elle est censée être vraiment le à la fois le mouton noir, le poids mort et la victime. Et ce qui est très beau, c'est comment se raconte la manière dont ce personnage a compris à la fois tout ce jeu, mais comment la règle qui devrait être une contrainte n'est pas quelque chose qu'il faut contourner, qu'il faut se détourner, mais qu'il faut retourner véritablement à son avantage. Et la force du film, c'est comment faire sienne cette règle, c'est faire sienne ces mots, ce langage-là, au point que de le maîtriser, d'en maîtriser absolument toutes les cadences. Et donc, c'est là que le film se déploie et donne la mesure de son écriture et de son abattage aussi. C'est qu'au fond, tout est gouverné par le rythme. Et évidemment, le personnage qui est le moins... qui est désigné comme l'idiot, en gros, pas du village, évidemment, parce qu'on est dans la société anglaise, oui. mais en gros, de la caste, de la communauté. Et qui, voilà, c'est quelqu'un qui, à l'évidence, ne maîtrise tellement pas le tempo, le rythme, voilà, qu'il en vient à mal séquencer les mots, à mal les découper. Et donc, quand il se rend à un endroit qui s'appelle Churchill, il s'attend à trouver a church and a hill, donc une église et une colline. Et évidemment,
il ne
voit
cesse
pas
de se voilà. demander pourquoi.
Il y a une scène merveilleuse
pas.
Également où il découvre l'existence des petits pois, mais et où on sent qu'au fond, ce qui est très embarrassant, c'est moins peut-être le fait qu'ils ne connaissent pas vraiment cet aliment qui est tout à fait congru pour tous, mais la balourdise.
L'exaltation.
Qui est totalement intempestive par rapport à ce qui est le tempo de cette société.
Alors, je ne sais pas si mon exaltation était intempestive dans la salle où j'ai découvert le film, mais moi, c'est rare d'avoir un plaisir qui dure de la première à la dernière image du film. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec ce Love and Friendship, dont je ne savais rien en entrant dans la salle, si ce n'est qu'il était l'œuvre de Whit Stillman. Donc, je ne savais pas que c'était Jane Austen. Et j'aime beaucoup Jane Austen. Il se trouve que je ne connais pas ce Lady Susan. Je me demande, cela dit, si le texte est aussi drôle que le film. Parce que même si Jane Austen, il y a une forme de distance, d'ironie, de choses très fines. Enfin, j'ai jamais lu un livre de Jane Austen qui me faisait absolument rire à gorge déployée. Donc, je serais curieux de lire ce Lady Susan. Il faut que je m'enquière de trouver ce texte quelque part. Mais je pense qu'effectivement, le travail scénaristique et de mise en scène et de montage, parce qu'il y a une façon d'avancer à toute allure dans ce film. Enfin, la séquence d'ouverture n'est pas une tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire qu'on commence dans un fracas, on est au milieu d'une scène, enfin, ou à la fin presque d'une scène, comme si on raccordait quelque chose d'un épisode précédent, mais dont on ne saura d'ailleurs pas vraiment grand-chose, si ce n'est quelques indices qui viendront au cours du film. Et c'est vrai que voilà, ce rythme d'enfer, cette précision de la langue, et puis Kate Beckinsale qui est absolument mais impériale et géniale pour ce rôle d'un bout à l'autre, parce qu'elle tient véritablement le film. Hein. Il aurait pu s'appeler Lady Susan comme le texte dont il est adapté, puisqu'il est vraiment... Bon, c'est assez drôle de l'avoir appelé Amour et Amitié, puisqu'on en voit quand même de drôles d'exemples d'amour et d'amitié dans ce film. Charlotte Garçon ?
Oui, je pense que le tempo est d'autant moins un forçage, on pourrait dire, par la forme, que tout de même, cette femme, du fait de son veuvage et sans doute aussi peut-être d'autres choses auparavant, est quand même quelqu'un qui n'a plus d'argent et qui d'ailleurs dit à sa fille, qui va de visite en visite chez des gens
qui
de
squatte.
Sa famille, voilà,
ouais,
qui squatte à droite à gauche et qui dit à sa fille, nous ne vivons pas, nous rendons visite. Voilà, c'est comme ça qu'elle... Et du coup, c'est vrai que ce côté bondissant est tout à fait cohérent avec l'intrigue, de même qu'elle voit, comme vous le disiez, son amie américaine en cachette, parce que cette amie a commis l'erreur de se marier avec quelqu'un trop vieux pour être agréable, trop jeune pour mourir. Et du coup, ce censeur, voilà, est une sorte d'épée de Damoclès qui l'empêche de converser aussi, de converser librement. Du coup, ça crée aussi des situations de lettres, de petits billets, de gossip. Donc c'est ce plaisir-là aussi de la parole telle qu'elle est conditionnée par les situations de rapidité. Parfois, on entend le dialogue qui claque, hein, comme ce fouet dont menace Lady Susan, dont elle menace son l'un de ses prétendants, je pense. Donc il y a quelque chose de très critique, et il me semble que dans le côté très sec de ce personnage, on entend aussi le côté sec d'Austen elle-même, et donc cette pointe critique dont vous parliez. D'ailleurs, là, elle dit de sa fille, Lady Susan, nous élevons nos critiques les plus mignons. C'est-à-dire que la critique vient toujours de l'intérieur de la famille. On ne va pas dévoiler la fin du film, mais finalement, voilà. Nos enfants sont nos critiques les plus adorables.
Antoine Griot, Griot.
Je vais faire
Antoine Guillot.
Je vais faire le Griot ce soir. c'est un délice de tout moment, de chaque instant, bon. Ce film. Et notamment, moi j'étais très frappé, vous parliez de rythme, de tempo. Moi j'étais très frappé par la musicalité de ce film, dont la bande-son est digne des bandes-son de Kubrick par l'utilisation qu'il en fait. D'ailleurs, le film commence avec des faux airs kubrickiens entre l'image que j'ai évidemment renvoie à Barry Lyndon et l'utilisation de la musique pour les funérailles de la Reine Marie, de Purcell, qui renvoie aussi à Orange Mécanique.
Absolument.
Mais alors en accéléré. Hein,
et voilà.
En synthétiseur.
En version d'origine,
en
mais
version orchestre.
Il nous installe là-dedans et sa manière d'utiliser des musiques très différentes, mais qui sont toutes plus ou moins un ou deux siècles d'époque contemporaine, en tout cas de ce qui est raconté, est vraiment passionnante. Et puis ce personnage, effectivement, de Lady Susan, alors quand vous lirez le livre, parce que si vous lisez le générique jusqu'à la fin, Whitman renvoie, il dit, lisez le livre de Jane Austen, vous verrez Lady Susan proprement châtiée, c'est-à-dire et lui-même le dit, dans la version d'origine, ce personnage complètement amoral était puni.
Bon, c'est pas tout dire. Hein.
Lui-même a une version un peu différente de la chose, et pour moi, alors il se trouve qu'en même temps, je revoyais des vieux films de Paul Verhoeven, et notamment Spetter, c'est un personnage complètement verhoevenien, cette femme qui, s'affranchissant de la morale, mais comprenant très bien comment les autres sont asservis à cette morale, arrivera à ses fins et dominera le jeu du début à la fin. Donc c'est vraiment un film délicieux.
On va encore dire qu'on se dispute pas, mais voilà, on peut se réjouir, Julien Lester.
Mais non, mais je voudrais pas rajouter de l'absence de dispute à la dispute. Mais je trouve vraiment le film absolument enchanteur là-dessus. Et c'est ce que je trouve, ce qu'Antoine Guillot vient de dire très juste. En fait, on peut pas imaginer un film plus différent. Mais au fond, le personnage de Kate Beckinsale est à la baguette et à la mise en scène presque depuis l'intérieur des plans, comme le personnage d'Isabelle Huppert peut l'être dans Elle de Paul Verhoeven, dont on parlait à ce micro il y a quelques semaines.
Oui, elle pourrait partager cette devise de Lady Susan, les faits sont une chose horrible. Donc oui. On peut toujours tout tordre et tout régenter.
Bon, on se quitte sur ce concert de louanges concernant Love and Friendship. Donc on vous ordonne absolument d'aller voir dès demain, la première séance, le plus tôt possible.
Sinon, nous vous faisons fouetter.
Voilà, on vous fera fouetter. Il faut aller voir ce nouveau film de Whit Stillman qui est si rare et j'espère qu'il le sera moins dans les années à venir. Love and Friendship sort demain.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Panic at Needle Park de Jerry Schatzberg à l'occasion d'une nouvelle sortie en DVD. On retrouvera avant cela l'invité de la dispute, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana. Nous évoquerons aussi la sortie en DVD de Bad Boy Bobby de Rolf Dreher. Nous parlerons de la sortie ressortie en version restaurée de Belladonna de Eiichi Yamamoto. Et puis on évoquera aussi le cycle Le Mélodrame français à la Cinémathèque française. Avant cela, d'autres mélodrames. Peut-être aussi une belle femme, allez savoir, avec Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. C'est à vous, cher Antoine.
Merci Arnaud Laporte. Vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y avait pas un film chinois en compétition à Cannes cette année, si ce n'est un court-métrage, comme l'a relevé David Fontaine, dans le canard enchaîné. Une humiliation nationale ou un signe des temps, point d'interrogation. La productrice Isabelle Glachan, représentante d'Unifrance à Pékin, explique. Les producteurs chinois font de gros films pour leur marché national, mais aucun film d'auteur. Ils ne s'intéressent pas aux films jugés ennuyeux du reste du monde, qui à son tour ne s'intéresse pas à eux. Même à Hong Kong, le niveau a baissé et cette année, aucun des 3 ou 4 réalisateurs chinois ayant accès à Cannes n'avait de film prêt. Cela n'a pas empêché les professionnels chinois de se presser. Toujours plus nombreux au festival, des centaines de journalistes sur les 4000 accrédités, souvent affublés des meilleurs badges, vu l'audience de leurs médias. Ils couvrent en priorité la montée des marches des stars chinoises venues se montrer, parfois flanquées de nouveaux riches qui achètent des packages VIP à prix d'or. L'équipe d'un des plus gros site Sina.com, dont la fréquentation se compte en milliards de pages vues, est ainsi passé de 3 journalistes à 10 depuis 2005. Co-organisée par China Movie, chaîne de la télé publique CCTV, la soirée China Night, tout de rouge éclairé, était fastueuse. Sur la plage du Majestic le 13 mai, champagne coulant à flot, vaste buffet élaboré par des chefs, fontaine de chocolat. Mais malgré l'accord de coproduction franco-chinois signé en 2010, les films indépendants peinent à se monter. Car pour obtenir obtenir l'agrément d'un film en France et accéder aux aides du CNC, il faut paradoxalement recueillir aussi l'assentiment de la censure chinoise. Autrement dit, décrocher le dragon, le logo de la censure d'État affiché en début de film, explique Vincent Wang, le producteur des films du Taïwanais Tsai Ming-liang, qui tourne aussi à Pékin. La censure, Jean-Jacques Hano, venu participer à une table ronde le 15 mai, il ne la connaît pas. La censure, il a tourné Le Dernier Loup dans le cadre de cet accord de coproduction et remporté un franc succès au box-office chinois en 2015, et il prépare deux autres longs métrages en Chine. C'est impossible à entendre en France, mais j'ai été totalement libre, assure-t-il. Il n'y a eu d'intervention que sur la scène où un petit loup est lancé en l'air. Nous l'avons justifié par les traditions mongoles. Son producteur français, Xavier Castano, se montre plus circonspect. Cela n'a pas été simple. Il a fallu négocier 7 ans avec le China Film Group, l'organisme d'État qui a financé 80% du budget du film, et de confesser deux autres interventions de la censure. Lors d'une masterclass, le réalisateur chinois Jia Zhangke, régulièrement sélectionné à Cannes, a expliqué courageusement, lui, ses démêlés avec la censure dès son premier film, Xiao Wu, artisan pickpocket. Ses trois premiers films ont été interdits de distribution en Chine, tout comme Touch of Sin plus récemment. Le réalisateur a précisé comment le passage au numérique à partir de 2001 a paradoxalement détendu les autorités qui ne peuvent plus tout contrôler, tout en reconnaissant les vertus du dialogue. Si on veut faire évoluer la situation, il faut continuer de parler avec les autorités. C'est comme dans le tai chi, il faut accompagner de sa main le mouvement de la main de l'autre. Il devrait, conclut le journaliste Cinéma du Canard, enseigner sa méthode à Jean-Jacques Hano, qui a quelques trous de mémoire. Et pendant qu'à Cannes, les Chinois s'affichaient ou débattaient de la censure, un très discret Coréen s'affairait, caméra au point. La caméra de Claire, c'est, raconte Jean-Marc Lalanne dans Les Inoccupables, le titre de travail du nouveau film d'Ong Sang-soo. Le prolifique cinéaste coréen l'a tourné à Cannes pendant le festival, à la marge de la manifestation. Il a ainsi bénéficié de la présence parmi les invités de deux de ses comédiennes, la ravissante Kim Min-hee, déjà interprète d'Ong Sang-soo dans Un jour avec, Un jour sans, l'an dernier, présenté en compétition Mademoiselle de Park Chan-wook, quant à Isabelle Huppert, montant les marches en fin de festival pour Elle de Paul Verhoeven, on vient d'en parler. Elle retrouve le cinéaste pour la deuxième fois, 4 ans après In Another Country. Le 19 mai, la comédienne longeait ainsi la plage de la Boca, filmée par une équipe réduite à 5 personnes, la tête enfoncée dans un chapeau. Elle portait un manteau ceinturé jaune un peu hors saison. « Je porte la même tenue pendant tout le film », raconte Isabelle Huppert. « J'ai proposé à Ong Sang-soo plusieurs tenues m'appartenant et il a flashé sur celle-là. Ça donne à mon personnage un côté inspecteur Clouseau. C'est un peu la panthère jaune. » Isabelle Huppert incarne Claire, une Française, sillonnant parmi quelques Coréens, en plein marivaudage adultérin, un mari, son épouse, sa maîtresse, et prenant compulsivement des photos. Fidèle à sa méthode, Sang-soo avance dans le tournage sans scénario, écrivant les dialogues et les délivrant à ses comédiens à la dernière minute. « Du coup, je n'ai pas une vue d'ensemble du récit », reprend la comédienne. « Je ne connais que les scènes dans lesquelles je joue. Je crois néanmoins que le film sera plus sombre qu'In Another Country, qui était une fantaisie. » Ce tournage, Isabelle Huppert l'a aussi raconté au Cahier du cinéma, qui lui consacre leur couverture, ce n'est pas souvent pour une comédienne, à l'occasion d'une longue interview dans laquelle le rédacteur en chef Stéphane Delorme tente de comprendre autant soit peu le mystère de son jeu et simplement le mystère du jeu. L'entretien a été réalisé à Paris 4 jours avant le début du festival, mais Isabelle Huppert se réjouissait déjà du tournage à venir. « C'est trop drôle, ça me plaît trop », dit-elle. « Ça peut être ça, faire du cinéma ».
Merci Antoine. Alors, beaucoup de bonnes nouvelles. Hein. Un nouveau film. Oui, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, sur les journalistes chinois, je voulais signaler qu'à Cannes, il y avait donc, comme chaque année, les grilles habituelles d'étoiles de la presse française, de la presse internationale, mais aussi, je crois que c'était un fait inédit, une grille de 10 journalistes chinois, et où on pouvait apprécier une sorte de goût, que, je pense pas le goût chinois, mais de ces 10 journalistes, et il y avait des vraies curiosités, enfin c'était assez fascinant à suivre, donc ils étaient d'accord avec la masse des festivaliers pour donner la palme à Tony Erdmann de Marina 2, mais en revanche, par exemple, le deuxième film le mieux noté, c'était Rester vertical d'Alain Guiraudy.
Ah ouais.
Et vraiment, j'aurais aimé comprendre pourquoi, comment. Enfin, j'adore ce film, mais ça paraît. Enfin, c'est un film qui a été beaucoup plus controversé, disons, dans les panels français et internationaux, par exemple. Alors, la seule explication que j'aurais, c'était qu'il ne risquait sans doute pas, précisément pour des raisons de censure, de voir venir le film un jour être projeté en Chine. Mais ça serait quelque chose que j'aimerais me voir expliquer. Et simplement pour rebondir sur ce qui était dit, sur le cinéma chinois, il faut aussi dire que les festivals montrent ce qu'ils veulent bien. Il y a évidemment une grosse production chinoise dont on en renvoie, disons, quelques symptômes, on se dit qu'en effet, elle est pensée pour leur marché, et elle n'a pas forcément vocation à voyager, et ça ne nous manque pas forcément. Évidemment, les 3-4 grands cinéastes qui ont leurs entrées à Cannes, mais entre les deux, on peut penser quand même qu'il y a une production possible et même existante. Et par exemple, un film qu'on évoquait ici il y a quelques mois, qui s'appelait Kylie Blues, qui pour moi, parmi les premiers films vus ces derniers mois, voire ces dernières années, était peut-être le plus remarquable, le plus stupéfiant, le plus étonnant, à bien des égards. C'est un film qui a été découvert au Festival de Locarno l'année dernière, mais je sais que le réalisateur l'avait présenté aux différentes sélections cannoises et qu'il ne l'avait pas retenu. Donc, avant de juger totalement de la production, il faudrait aussi voir à travers les festivals, il faudrait voir aussi ce qu'ils choisissent de montrer et de filtrer.
Voilà un des faits intéressants à signaler à nos auditrices et auditeurs. D'autres faits intéressants à signaler, des recommandations, aller à la Cinémathèque française, si on est ou on passe par Paris jusqu'au 31 juillet, on pourra y découvrir, Charlotte Garçon.
Oui, le mélodrame français, c'est un genre, mais pas vraiment un genre, c'est beaucoup plus capillaire, comme ça, dans l'ensemble du cinéma français, par capillarité,
capillaire,
je veux dire.
Ouais.
Non, vous voyez ce que je veux dire.
C'est-à-dire
qu'en fait...
Rhizomatique.
Voilà, non, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas un genre
tiré
délimité.
Par les cheveux.
Voilà. C'est pas un genre délimité, comme on peut dire le mélo mexicain ou le mélodrame hollywoodien, c'est quelque chose qui est à la fois présent et, j'allais dire, un petit peu refoulé périodiquement par le cinéma français, comme étant, voilà, mettons à distance le sentiment, et puis au contraire, d'espèces de vagues émotionnelles. Et donc, c'est une programmation qui parcourt quand même un assez large spectre chronologique, avec d'abord, bien sûr, l'un de mes films préférés, La femme d'à côté de François Truffaut, qu'on pourra venir revoir, mais aussi plus de, enfin, des raretés. Et je vous recommande notamment, enfin, c'est pas à moi de vous le recommander.
Ben, si, vous êtes là pour ça.
Non, mais c'est un film de Max Ophüls qui était passé à la Cinémathèque il y a déjà quelques années, qui est Sans lendemain. Son film de 1940 avec Edwige Feuillère, mais qu'on voit rarement.
Absolument.
Et qui, je crois, a été tout récemment restauré. Donc je me demandais quand est-ce qu'il allait nous arriver restauré. Et c'est vraiment un mélodrame magnifique. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il est moins connu que les films
que Madame 2.
Par la suite avec Daniel Darieux.
Parce
que déjà, les mouvements de caméra, tout est là. Et c'est vraiment un film magnifique.
Peut-être de sombres histoires de droit, vous savez, souvent les films qui disparaissent pour de mauvaises raisons, souvent.
Oui, donc on peut espérer qu'il va vraiment ressortir aussi dans les salles, mais ce geste de programmation qui consiste à faire un bouquet avec des films auxquels on ne pense pas forcément les montrer ensemble, comporte par exemple Vivre sa vie aussi de Godard. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est toujours ces résurgences comme ça du rapport à l'émotion, du rapport des cinéastes et des acteurs et du cinéma en général, du cinéma français à l'émotion, avec un creux apparemment dans l'immédiate après-guerre. Il va falloir les films des années 50 de Max Ophüls pour vraiment ramener le mélodrame un petit peu plus, de manière plus acceptée, disons, dans le cinéma. En tout cas, vraiment beaucoup de curiosité en même temps que des chefs-d'œuvre. Donc,
faut y aller. Mélodrame français, à la Cinémathèque française jusqu'au 31 juillet. On reparlera de mélodrame tout à l'heure avec Panic à Needle Park. Et je vois le DVD de Mad Love in New York sorti fort à propos par Antoine Guillaume, mais ça sera pour tout à l'heure. Avant cela, autre recommandation, autre ressortie, mais alors je ne sais pas si beaucoup de gens l'avaient vu à l'époque, Belladonna de Eiichi Yamamoto.
Alors j'ai vu le mot ressorti en effet utilisé beaucoup, mais je ne suis même pas sûr qu'il était sorti en France à l'époque. C'est un film qui est sorti au Japon en 1973, qui a été présenté, qui a été tenu 10 jours en salle, et le studio qui l'avait produit a fait faillite dans la foulée. Il a été présenté au Festival de Berlin, je crois, l'année suivante, et il avait fait plus ou moins un scandale, mais pas un scandale qui crée la renommée d'un film, un scandale qui coupe court à toute fin de carrière. C'est un film qui est un film japonais, mais qui s'inspire d'une riche matière européenne, un imaginaire européen, puisque c'est à la fois une libre inspiration. Il repose à la fois sur une libre inspiration de la sorcière de Michelet. Ces images qui accompagnent à l'époque celles du cinéma érotique des studios vont plutôt puiser dans des tableaux viennois de Klimt ou de Schiele relate une histoire de démoniaque, une histoire de sorcellerie, mais surtout une histoire, et là comme chez Whitney, même si là aussi les deux films n'ont rien à voir, une histoire d'émancipation féminine qui est au diapason de un certain cri d'affirmation de l'époque, quand même le réalisateur se défend d'avoir voulu faire un film féministe, mais reconnaît bien qu'aujourd'hui, on ne peut difficilement le voir autrement. Et c'est vraiment à la fois une curiosité et une splendeur qui sort de nulle part, parce que ça appartient à un genre qui est arrivé presque à autocombustion en même temps qu'il émergeait, qui serait un cinéma d'animation japonais pour adultes des années 70, c'est-à-dire quelque chose qui venait de germer sous la tutelle en quelque sorte et l'influence de Osamu Tezuka, qui était un peu le maître de ce Yamamoto, et qui a pris les gens de court, pris le public, les studios, l'industrie, et s'est totalement effondré au moment même où ça se mettait en place. Et donc c'est un film qui va chercher sur le terrain de l'érotisme, de quelque chose de quasi pornographique, des images, des visions, avec un travail sur la couleur qui est extrêmement complexe et en même temps une économie de moyens dans le trait que je trouve magnifique et qui n'aura absolument pas vieilli, mais qui produit surtout cette impression très étrange, voilà, d'assister à l'invention spontanée et très fugace d'un âge d'or et en même temps de sa fin, puisque c'est un genre presque clos sur lui-même qui est composé par ce film, et c'est quelque chose à découvrir, je pense, absolument en salle.
Et Antoine Guillaume brûle d'en dire quelques mots, je le sens aussi.
Non, c'est effectivement un film très étonnant, complètement psychédélique, avec en plus une animation assez étrange, puisqu'il y a des moments vraiment de pure animation, et des moments d'immobilité absolue, où la caméra se contente de caresser, de filmer des tableaux, ce qui est là aussi très curieux. Donc après, il y aura des films pour adultes de dessins animés, mais qui verseront comme les films pornographiques en général, dans l'utilitarisme absolu, dans le hentai, et n'auront plus beaucoup d'ambition artistique. Donc là, c'est vrai que ça nous renvoie un peu vers le cinéma de Wakamatsu et d'autres qui allient sexe et révolution, enfin la puissance révolutionnaire de l'orgasme féminin.
Belle adonne de Ishi Yamamoto, sorti ou ressorti. Enfin, l'important c'est qu'on puisse le voir dans les salles, ce sera le cas dès demain. C'est bien demain qu'il sort, oui.
Non, il est sorti mercredi dernier.
Bon, d'accord, j'ai quelques retards. Bon. Il faut que je soigne ce rhume, décidément. Nous sommes disputés autour de la ressortie, ça c'est sûr, du film de Rolf Dreher, Bad Boy Bobby, il y a quelques mois, mois de novembre dernier. C'est de retrouvailles avec un film qui, moi, m'avait beaucoup marqué lors de sa sortie en salle en 1993, qui m'a toujours donné envie de voir les autres films de ce cinéaste australien, même si ce sont des films d'ailleurs qui se sont avérés très dissemblables au fil des années. Il y a eu La Chambre Tranquille, Dance Me to My Song, 10 canoës, 150 lances, 3 épouses, ou Charlie's Country, qui est le dernier film en date du cinéaste. Mais alors revoir Bad Boy Bobby, c'était en version numérique restaurée, là encore pour le coup, c'était ça avait accru mon admiration pour ce film. Alors il se trouve qu'il est aujourd'hui disponible en DVD et Blu-ray, et que voilà, on peut profiter pleinement en Blu-ray du travail des 32 chefs opérateurs qui se sont succédés derrière la caméra. Alors non que Rolf Dreher les ait virés les uns après les autres, mais parce que le projet nécessitait pour lui des ambiances à chaque fois différentes d'une scène à l'autre au fur et à mesure que le personnage de Bobby découvrait le monde extérieur. Et donc, du coup, il avait demandé à ces 32 chefs opérateurs de travailler chacun un style d'image. Alors, le point de départ du film, je le rappelle rapidement, c'est un huis clos entre un homme d'une trentaine d'années et une vieille femme obèse dans un sous-sol totalement délabré, insalubre, les mots sont faibles, et puis on va vite comprendre qu'il s'agit d'une mère et de son fils, quand bien même la nuit venue, la mère chevauche gaillardement son fiston pour des scènes de sexe quand même très crues. Ce qu'on va vite comprendre aussi, c'est que le petit Bobby n'est jamais sorti de ce taudis, parce que sa mère lui fait croire que dehors on peut pas respirer, il faut mettre des masques à gaz, même si les tuyaux sont percés. Bon, il va sortir bien sûr, je n'en dis pas plus, mais travail visuel extrêmement riche, travail sonore. Là encore, c'est drôle parce qu'on parlait hier de son binaural au théâtre, mais c'est le son, cette technique-là qu'a utilisé Rolf Dreher pour une technique complètement immersive pour que le spectateur entende ce que Bobby lui-même entend, avec aussi des bruits industriels, des bruits de toutes sortes et beaucoup de musique. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi un homme qui trouve le rôle de sa vie, Nicholas Hope, qui est du premier au dernier plan de ce film et qui le porte véritablement, qui est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, dans les suppléments du DVD Blu-ray chez Blackout, il y a un court-métrage avec Nicholas Hope, donc on peut voir aussi En voyant, en revoyant Bad Boy Bubby, c'est un film qu'on peut aussi écouter au casque, puisque la piste stéréo binaurale est figure sur le Blu-ray pour entendre le film dans la tête de Bubby. Voilà, de beaucoup de bonnes raisons de se procurer ce DVD. Dans quelques minutes, alors on va parler encore de DVD, mais avec un autre film qu'on dit culte, Panic à Needle Park de Sherry Schatzberg. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute. Cette semaine, on la passe avec la chanteuse et comédienne Camélia Jordana. On peut retrouver son actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Camélia Jordana, alors hier, vous avez dit que l'envie de théâtre était là, il fallait trouver le temps, ça c'est une chose. Parler aujourd'hui maintenant de cinéma, parce que le cinéma, il vous a déjà attrapé, vous y êtes déjà passé, on attend de vous y revoir. Mais peut-être avant de parler de votre travail à vous, il a quelle place le cinéma dans votre vie? Est-ce que voilà, vous allez en salle? Est-ce que vous êtes à l'affût des nouveautés? Est-ce que vous faites des filmographies quand vous découvrez un auteur? Comment vous faites?
J'essaye en ce moment de compléter la discographie d'Iñárritu. Il m'en manque un.
Filmographie. Discographie. Hein, ça c'est. Il y a autre chose que des disques. Hein, vous savez, vous avez dit discographie.
Ah, j'ai dit discographie.
Il manquerait voilà. Plus qu'il chante maintenant
c'est
celui-là.
Non, c'est trop. Hein, vraiment, c'est resté dans les limites de la décence. Pardon. Je suis en train d'essayer de compliquer.
Compliqué.
De compléter. Pardon. La filmographie d'Iñárritu. Il m'en reste un. Le premier.
C'est le meilleur, vous avez de la chance.
Ouais, il paraît.
À mon goût.
Je commence un peu à essayer de fonctionner en filmographie, justement. Et du coup, le cinéma, pour moi, c'est une vraie perle précieuse, cachée, que je garde comme ça pour moi. J'adore aller au cinéma toute seule. Généralement, d'ailleurs, j'y vais toute seule. C'est ce que je préfère, je crois. J'essaie forcément de me tenir au courant de ce qui se passe et dans le cinéma français, dans le cinéma étranger. Dans le cinéma français, j'essaie un peu d'aller dans des choses un peu plus niches, quoi, on va dire. J'essaierai plutôt d'aller au cinéma des cinéastes que au Vépler dans mon coin. Ces derniers temps, je sais pas, une
les dernières émotions
claque,
fortes, non.
Alors, c'est marrant, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée voir un film bien pop au cinéma. Je suis allée voir Magesplan. Que j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé ça d'une fraîcheur, c'était délicieux. Et sinon, non, une vraie tarte quoi, cinématographique. Il y en a deux, il y a eu El Clan et El Club. Ah. El Club, je crois que c'est...
Terrible. Il sort en DVD là, ces jours-ci, donc on peut le recommander à nos auditeurs s'ils ne l'ont pas vu en salle.
Vraiment, c'est incroyable. Je commence un peu à m'en remettre, je crois, mais pendant un mois, vraiment, c'était quotidien, quoi. J'avais des flashs en permanence. J'étais coincée avec eux. J'étais avec les chiens. J'étais sur la plage.
Alors, avec eux, il faut dire, c'est le film de Pablo Larraín, le chilien, qui avait réalisé No avant, qui était un magnifique film sur un référendum de temps Pinochet. Bon, bref.
Ouais.
Et là, on va comprendre que font ces personnes un peu bizarres.
Tellement
et qui exsudent vraiment un mal-être terrible dans une petite maison, dans une petite ville, au fin fond d'une petite ville côtière du Chili. On va pas tout raconter parce qu'il faut que les gens aient le. Et vibre.
C'est fou. L'image est.
Ça infuse.
L'image est folle. Chaque comédien, je sais plus. Moi, je croyais même plus que c'était des comédiens, en fait. Du tout. Je dis, pas du tout. Lui, il est prêtre. Lui, c'est un ancien, voilà. Et puis, elle, c'est, bien sûr. Et là, c'est les voisins. Puis là, c'est la course. Puis, non, vraiment, c'est bouleversant. Et vraiment, l'image est dingue, quoi. L'image est sublime. Non, j'ai adoré ça. Et El Clan, alors c'est marrant parce que El Clan, il y a eu une séquence où vraiment en termes de scénario, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous mettez ça là, les gars, alors que tout tenait, mais parfaitement. Et ça, c'est droit, quoi, to the point. Et il y a eu juste voilà, cette séquence où je suis un peu genre, vraiment, on part là-dessus. Bon. Et donc, ça m'a un peu sorti de ça, même si j'ai adoré tout ce qui a suivi. Sans trop comprendre là où on allait, ok, d'accord, finalement on va là-dessus, ok. Et cette fin, quoi.
Vous êtes une spectatrice active, on a l'impression, Camélia Jordana.
Je sais pas, je trouve ça assez interactif, moi, le cinéma.
Vous parlez à l'écran
Je pense que je suis... Alors, je parle pas à l'écran, mais je suis de ces spectatrices peut-être un peu reloues qui... tchatche, mais je tchatche pas en vrai parce que je suis seule et je parle seule dans la vie, mais pas au cinéma non plus. Mais je parle un peu en onomatopée, quoi. Je peux lâcher des « oh ». Donc voilà, c'est d'où l'intérêt d'y aller seule, parce que du coup, si vous y allez avec vos potes et que vous lâchez des « oh », ça peut être un peu désagréable.
Et pour l'expérience Camélia Jordana devant la caméra, alors il y a eu des films différents les uns des autres. C'était une sorte de rêve qui devenait réalité, un rêve qui n'est plus un rêve, qui est une réalité de travail, une envie d'y retourner.
Oui, complètement. En fait, c'était après que la vie ait fait que la musique soit devienne comme ça ma vie, quoi, et que j'en vive, je veux dire. Du coup, je disais à mon premier manager à l'époque que, bon, bah voilà, alors si les rêves se réalisent, en fait, j'en ai un autre quand même sur la liste. J'aimerais bien être comédienne. Comment ça se passe pour jouer? Et voilà, et de là, j'ai passé des castings et lu des scénarios et tout ça. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure, ça s'est venu s'installer un peu comme ça. C'est venu grappiller. Alors au début, c'était très ludique, même si c'était mon désir et que ça venait uniquement de moi. Voilà, il y avait quelque chose de très ludique, presque un peu... presque puéril en fait, et avec le temps, vu les projets qu'on me propose depuis quelques temps et puis ceux auxquels je participe et tout ça, il y a de plus en plus une espèce d'engagement solennel de moi à ça. Mais j'adore ça et je trouve ça vraiment magique et important aussi et nécessaire aussi de dans ma vie, à moi, dans mon rapport à la vie, à l'autre, à l'humain, à ma société, à mon pays et tout ça. C'est vraiment très ludique, même si ça peut être des histoires très dark, mais il y a quelque chose de l'ordre du repos, en fait. Je suis plus moi. Et même si c'est une histoire beaucoup plus trash que la mienne, en tout cas, c'est pas ma vie, c'est quelqu'un d'autre. Il n'empêche que c'est reposant de pas être soi, quoi, aussi.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mardi soir au cinéma avec le troisième numéro de la collection Ultra Collector, le DVD et Blu-ray chez Carlotta avec Panic à Needle Park. C'est un film présenté au Festival de Cannes en 1971 qui vaudra à son actrice principale Kitty Wynne le prix d'interprétation. C'est aussi le premier rôle pour Al Pacino et c'est grâce à ce film que Francis Ford Coppola a pu convaincre la Paramount d'engager Pacino dans Le Parrain. Voilà, c'est déjà une bonne raison d'aller voir ce qui se passe dans ce film-là, un film qui nous plonge dans la vie quotidienne d'un groupe d'héroïnomanes à New York. Alors, un peu en panique, on va le comprendre, puisqu'il y a une grande pénurie de drogue, il y a une saisie importante, donc la drogue se fait rare, donc c'est la panique dans le parc où on trouve plein d'aiguilles par terre, Panic à Needle Park, Bobby, Al Pacino, c'est un des héroïnomanes, ce sera le héros du film, on va dire, qui tombe amoureux de Hélène, Kitty Wynne, et on va suivre ensemble ce véritable mélodrame.
The intersection at Broadway and 72nd Street on New York's West Side is officially known as Sherman Square. It's called Needle Park. It is here in the neighborhood of Needle Park that drug addicts live and steal and hustle and somehow manage to exist from one day to the next. And it's here that Bobby and Helen find each other.
Oh, sometimes I think, well, I had done such and such, or I hadn't done such and such, that I never would have met Bobby. But that's not the point, is it? I mean, I would have met Bobby. Always. Some Bobby or another. I was looking for him. I don't know if you understand what I mean, but Bobby made me feel necessary, safe.
Hey, how's it feeling to steal something?
$12.
Come on.
I'll give you $15, okay?
Esther, I'm a dope addict.
I heard that before. Why don't you give me something new?
I'm a sex-crazed dope fiend. Harold, I'm the supplier. Man, I tell you. I said, don't blow this one, man. Man, we're going to have stuff coming out of our ears.
Not in time to get either one of us straight today.
Bobby never told you about a panic, did he? Everybody rants.
Hutch fixed it. Got Santa the works, everything. And he got Bobby to cop a plea, non-felonious possession. 6 months, that's the best he could do. I tried to see Bobby, but I never got a chance to explain.
Give me something, give me something!
Damn, Bobby.
I won't hit you.
What it's like to need someone.
I can't stand anybody hitting me.
You can only betray someone you need. Otherwise, it doesn't matter.
I want you to score for me.
You're not just asking me to score for you, you're asking something else.
What am I asking?
You're asking how much I'll do for you.
Panic, Annie Del Parc, avec cette très belle édition chez Carlotta, donc avec les DVD, avec le Blu-ray, et puis un grand livre qui propose beaucoup de textes liés au film, ce qu'il y avait dans le dossier de presse de l'époque, certains témoignages de l'époque, des extraits du scénario, des photos, etc. Julien Gester qui commence.
Je me rappelle quand le film était sorti en France en DVD pour la première fois, il me semble que c'était en 2004. J'étais allé voir par curiosité un peu quel accueil il avait reçu à l'époque de sa sortie en salle pour le coup. Et c'est amusant de voir comment évidemment la perception d'un film peut être déformée par la trajectoire qu'ont connue ensuite les gens qui l'ont traversé. Et par exemple, comment aujourd'hui on regarde vraiment le film à travers le prisme de Pacino, qui est devenu l'acteur qu'on sait, avec la carrière qu'on sait. Or, à l'époque, vous l'avez dit, c'est Kitty Wynn qui remporte un prix d'interprétation, et c'est elle qui est saluée plutôt par la critique. Et je trouve que c'est amusant, parfois, voilà, il y a une forme de biais de l'époque, dont le temps permet de se dégager, d'apprécier les films autrement, et peut-être à une plus juste valeur, mais je trouve ça intéressant de repasser par ça, pour regarder ce film, où je trouve que Pacino, en fait, est évidemment un grand acteur, mais quand on les regarde, tous les deux, sans doute, avec peut-être les yeux de gens de l'époque qui les découvrent, on se dit que lui peut-être plus en démonstration, peut-être plus là pour montrer quelque chose, tout ce qu'il sait faire en quelque sorte, et qu'il y a quelqu'un qui est une pure présence, qui touche à peut-être ce qui est par-dessus tout la douceur du film et qui est pour moi vraiment sa qualité première, et c'est cette actrice qu'on a finalement peu vu par la suite.
Et au fond, qui fait un véritable trajet pour le coup avec son personnage tout au long du film, ce qui n'est pas le cas du personnage de Bobby.
Absolument. Et par ailleurs, au fond, on peut décréter qu'il y a une forme de... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le film vaut aussi d'être revu par son caractère, enfin, généalogique, en quelque sorte, parce qu'il a engendré un des plus beaux films qu'on a vu sortir du cinéma indépendant américain ces derniers mois ou années, qui était Mad Love in New York, que vous citiez tout à l'heure, et qui sort en même temps d'ailleurs en Blu-ray également, je crois, chez Carlotta. Et au fond, c'est beaucoup plus ce personnage-là, de cette jeune femme, Hélène, qui enfante le personnage de Mad Love in New York que celui joué par Pacino. Ce que je trouve que le film est devenu avec le temps, si on essaie d'interroger peut-être ce qui demeure aussi tranchant peut-être de sa modernité, c'est peut-être pas ce qui était quelque chose qui a un travers un peu de l'époque, qui essaie de rendre des éléments, de rendre quelque chose de l'expérience du... soit psychédélique, soit du junkie, voilà. Avec, là, je trouve des effets de mise en scène qui sont parfois assez appuyés sur des effets d'enfermement, etc. Mais en revanche, c'est clairement le rapport au temps et justement des moments où le film décolle de cette expérience-là, la même façon qu'on peut trouver, à l'époque, c'est pas très intéressant, toutes les tentatives qui ont été faites à base de couleurs, de flash, de torsion d'image pour rendre ce que serait l'expérience de la drogue, rendre ce que serait l'expérience de l'enfermement, l'isolement, la douleur physique et mentale du junkie par certains effets de gros plans, d'angles, d'objectifs qui sont utilisés et qui traduisent à la fois la maîtrise technique de l'ex-photographe Schatzberg et en même temps une espèce de surapplication qui est un peu au ras peut-être de ce qu'il veut raconter. Je trouve ça beaucoup moins intéressant que des moments où il filme presque contre le contenu de la scène et néanmoins avec une douceur qui est une tendresse vis-à-vis de ce qui s'y joue, qui est presque le remède à la violence qui s'en exalte.
Charlotte Garçon.
Oui, moi, ce qui me frappe, je n'avais jamais vu ce film, donc ce qui me frappe, c'est que ça n'est pas tant une sorte de violence qu'on attend maintenant de la génération des cinéastes du Nouvel Hollywood, comme ça, une représentation très crue de la réalité de l'époque. Alors certes, on voit des aiguilles rentrer dans la peau, hein, il y a effectivement ça.
Il y a le fameux piano shot dont vous parlez souvent.
Là, c'est le needle shot.
La seringue dans la peau de l'interprète. La caméra monte sur son visage.
Ce qui est assez nouveau, a priori. à l'époque. Pour
alors, le oui, ouais. Alors, dans la réception du film, c'est ce qui a marqué et choqué, et ce qui a d'ailleurs, je pense, surpris, y compris Schatzberg, c'est-à-dire que la publicité du film n'a pas été faite autour de cela, et pourtant, bien sûr, a priori comme ça, de manière un peu superficielle, c'est vrai que c'est ce qui marque. Mais en réalité, moi, là où je l'ai trouvé vraiment touchant et réussi, c'est la façon dont il montre que le temps de la drogue, le temps imposé, disons, par les intervalles entre lesquels on peut ne pas prendre sa prochaine dose, enfin, donc le temps imposé par l'héroïne s'immisce dans le temps du couple, en fait, et détruit des rapports d'intimité que le film pose de manière assez belle dans des scénettes comme ça, et on voit vraiment très très précisément cette espèce de dérythme, de dérythmie qui s'installe dans le couple et qui fait qu'on est toujours finalement à contre-temps à partir du moment où de toute façon on peut pas, deux corps en manque ne peuvent pas être exactement synchrones, y compris dans leur manque, et ça je trouve que c'est vraiment assez beau, et c'est pour ça que c'est plutôt l'intimité, moi, du couple qui m'a intéressée que, disons, le portrait d'un New York dans lequel au coin de la 72e et Broadway, il y avait des dealers. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on va à ce coin que je connais bien, on aura du mal. Ou alors, vraiment, je vois rien. Et puis, il y a un monde parallèle.
L'immobilier est passé par là.
Ça a même été nettoyé. C'est un coin qui a été nettoyé à la fin des années 70, donc même bien avant la grande entreprise Giuliani.
Mais c'est vrai que sur la question du rythme, c'est aussi une chose qu'on voit dans le film qui est très moderne pour le coup, c'est le fait qu'il y ait certaines scènes dont on connaît la résolution, et du coup Schatzberg ne va pas jusqu'au bout des scènes et passe directement à la scène suivante.
Étonnante.
Très vite, parce qu'effectivement on n'a pas besoin de voir ça. Il y a une chose qu'il dit dans une des interviews dans les suppléments, il parle de ce désir absolu de perfection de Pacino qui le téléphonait tous les soirs 1h30 parce qu'il voulait savoir s'il est rush, etc., etc. Et Schatzberg dit, mais moi ce que je voulais, il y avait certains bouts que je cherchais, il suffisait que j'ai les bouts que je voulais dans la scène pour que ça aille. Effectivement, il fait aussi un film avec des bouts de séquences, mais c'est dans la rythmique du film, et je trouve que ça lui donne aussi une énergie très particulière, qui est aussi l'énergie du junkie en manque, qui doit absolument dépasser toute fatigue, tout problème pour aller chercher cette dose. Charlotte ?
Oui, c'est prélèvement que vous décrivez, hein, cette façon de dire, de toute façon, c'est pas grave si une partie de la prise n'est pas bonne, moi je travaille comme ça, en prélevant des fragments, ça entre en écho dans le récit du film, avec le caractère désespérément cyclique, disons, que provoque la drogue. C'est-à-dire que, justement, la drogue casse le récit, si on veut. La répétition qu'impose l'addiction ne permet pas, justement, un récit avec une apogée, une résolution, un dénouement, puisque on est vraiment de l'ordre de la répétition.
Justement, ce que je trouve assez fort qui demeure quelque chose vraiment de moderne dans le film, cette perception-là du temps, la manière dont il efface des arêtes dramaturgiques qui existent, dont les fondations sont là. Et je trouve que ce qu'on retient du film, c'est pas du tout ce qui peut s'y jouer. Il y a des histoires en germe de trahison, de tromperie, de coups fomentés qui pourraient susciter une forme de suspense. Et tout ça est totalement estompé par le film. Et ce qui va prélever précisément, c'est un peu dans la chair molle et néanmoins sous tension électrisée au dernier degré de ce quotidien-là. Et il y a une autre phrase qui apparaît qui est sur l'espèce de page de garde du scénario tel qu'il est présenté par extrait dans le livre qui accompagne la nouvelle édition DVD Ultra Collector, comme vous disiez. Il dit je voudrais que la perception du temps dans le film soit fragmentée et confuse, l'équivalent au cinéma du nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. Et c'est quelque chose. Bon, c'est une intention, on peut en faire, on peut la recevoir comme on veut, mais il y a quelque chose de ça vraiment dans le film qui passe et qui en fait encore un objet vraiment singulier, alors que vous considérez que même si Schatzberg a réalisé d'autres assez beaux films, je trouve que c'est pas le plus grand cinéaste de cette génération-là. Et quelque chose aussi de ces films-là, de la singularité de ces films, c'est peut-être dilué dans la force d'autres qui ont émergé en même temps que lui.
Pour rappel, juste dire que l'année suivante, il est revenu à Cannes avec L'Épouvantail, avec Al Pacino et Gene Hackman, qui a eu la Palme d'Or au détriment de Marco Ferreri, et La Grande Bouffe. Ça, c'était autre chose. Antoine Guillaume voulait intervenir.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que cette technique de prélèvement, de fragmentation dont vous parlez, elle figure dès l'écriture du scénario. Ce qui est c'est ce qu'on voit effectivement dans le livre qui l'accompagne, le scénario de John Didion, annoté par Schatzberg, où Schatzberg va prendre des bouts de scène, parfois à l'intérieur de la même scène, et va les recomposer, les déplacer des endroits, les supprimer. Donc c'est quelque chose qui est très très pensé avant même un travail éventuel de tournage ou de montage. Et puis, alors Kitty Wynn, formidable, mais quand même Al Pacino, moi, m'a beaucoup impressionné dedans, certainement qu'il montre tout ce qu'il sait faire, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ce film qui est pour les scènes d'extérieur filmé au téléobjectif, comme le feront les frères Safdie pour Mad Love in New York, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au milieu des dealers, des consommateurs, et personne ne sait qu'on tourne un film, eux ils sont à un bloc de là en train de filmer. On voit ce Pacino qui est une boule d'énergie qui virevolte dans tous les sens, une sorte de ludion sautillant et qui par moments s'effondre. Et j'étais frappé, si on ne savait pas que Le Parrain était tourné ensuite, j'ai énormément l'impression que Pacino est plus vieux dans ce film-là, plus maître de ses effets, et le travail de composition qu'il fera pour jouer un peu le jeune pato du Parrain, en tout cas du début, n'en est que plus impressionnant. C'est-à-dire que moi je suis très frappé quand même par la présence formidable de Pacino, disons-le quand même.
Oui, si vous avez absolument raison. Dernier mot, Charlotte Gerson.
D'ailleurs, il a fait perdre ce rôle-ci parce qu'il était trop vieux.
Il avait 31 ans, oui.
Peut-être que ses intentions et ce côté presque formaliste qu'il y a dans la note d'intention du scénario est bien, je trouve, bien tempéré par le travail du chef opérateur polonais, enfin Adam Hollander, qui arrive avec un drôle de... avec ses codes esthétiques à la fois de l'école de Woods, on dit comme ça, ou Lodge, donc Skolimowski, Polanski et tout ça, donc une sorte quand même de réalisme assez fort, et en même temps, toute une culture photographique des photographes américains dont il s'étonne que l'esthétique et la façon d'éclairer de ces photographes ne soit pas passée dans le cinéma américain. C'est-à-dire que lui est en avance sur Hollywood, mais il s'inspire de photographes américains.
Il raconte comment il a dû se battre avec les syndicats et sa propre équipe pour imposer une caméra légère, alors que vous voulez une bonne grosse caméra posée sur trépied, et qu'au bout d'une semaine, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était pas mal de tourner de façon légère.
Bon, ben, beaucoup, beaucoup de très bonnes raisons de découvrir ou redécouvrir Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg dans cette édition DVD Blu-ray Ultra Collector chez Carlotta.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous concluons l'émission avec le jeu de la dispute. D'abord un retour sur le jeu d'hier soir, Antoine Guillot.
Qui vous a fait gagner des invitations pour le spectacle Vertical Influence par la compagnie Le Patin Libre à la patinoire Vegapolis Odysseum de Montpellier vendredi prochain. Je vous avais demandé que signifie en patinage artistique les termes flip ou lutz, comme ne l'ignore pas Julien Gester. Il s'agit de saut piqué.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour aller voir l'exposition Beat Generation qui vient d'ouvrir au Centre Pompidou à Paris, qui dure jusqu'au 3 octobre.
Quelle ancienne ministre a intitulé son mémoire de diplôme d'études supérieures d'anglais, La Beat Generation et son influence sur la société américaine ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Charlotte Garçon, Julien Gester et Antoine Guillot. Les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel on peut s'abonner au podcast de l'émission. Abonnement gratuit, bien sûr. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Sam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Frédéric Bonnet et Éric Lauré. À notre affiche, Alexandre Calder et Fischlien Weiss est à la Fondation Beyeler à Bâle. Et puis deux expos à la Villa Arson de Nice, Eva Bartot et Blokai Catastrophe. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle La Dispute, les choix de la chanteuse Camélia Jordana et puis un nouveau cadeau à gagner. Tout cela c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15 hors champ par Laure Adler et dans quelques instants le journal de la rédaction.